Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Chers compatriotes, vous venez de voter pour un Burundi nouveau, rompant avec des années de zizanie et de drame. Aujourd'hui, s'ouvre une ère de la culture des droits de l'homme dans notre pays, dont les droits politiques, le droit à la vie, les droits économiques et sociaux pour tous seront la préoccupation majeure des dirigeants de ce pays.
Pour la première fois depuis son accession à l'indépendance en 1962, le Burundi a, ce 1er juin 1993, au cours de sa première élection multipartite, voté massivement pour un président issu de la majorité Hutu. Une large victoire, plus de 60% en faveur de Melchior Ndadaye, qui bat ainsi à la loyale le président sortant, le major Pierre Buyoya. Un réel bouleversement dans ce pays où jusque-là, le pouvoir avait toujours été détenu par la minorité Tutsi qui en réalité tient l'essentiel des rouages du pays, notamment l'armée.
Je pense que les extrémismes viennent de se rendre compte eux-mêmes que la majorité de la population burundaise aspire à la paix et veut faire évoluer les choses pacifiquement.
Ce soir du 1er juin 1993, si toute la communauté internationale salue cette transition, ce nouveau pas dans le processus de démocratisation du Burundi, elle est dans le même temps inquiète de la réaction des extrémistes de la minorité Tutsi qui redoutent une chasse aux sorcières ou une marginalisation, mais également de la réaction de l'armée que tiennent les officiers Tutsi. Melchior Ndadaye, le nouveau président, qui doit encore attendre pour prendre entièrement fonction, saura-t-il rassurer ses populations et amener le changement dont il a parlé tout le long de sa campagne? Lui que pas grand monde n'attendait à ce poste quelques mois plus tôt. Melchior Ndadaye naît le 28 mars 1953 à Murama, dans la commune de Nyabihanga, un village de la province centrale de Muramvya. Fils de Mpinda Ndadaye et de Thérèse Badushumbwenge, il est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. Après des études commencées dans sa ville natale, il va fréquenter l'école normale de Gitega, la deuxième ville du pays, de 1966 à 72. 1972, année particulièrement violente et sanglante dans son pays. Par une rébellion Hutu qui éclate en ce mois d'avril dans le nord du Burundi. Depuis quelque temps, le régime du président Micombero vit sous la peur d'un complot en préparation. Et cette rébellion sous fond d'affrontements ethniques qui menacent son régime va être durement réprimée par l'armée. Elle frappe violemment toute la communauté Hutu.
Nous avons été attaqués, on n'identifie pas encore les assaillants. Tout ce qu'il y a, c'est qu'ils portent des uniformes qui ressemblent à ceux de l'armée ougandaise.
On parle aussi de soldats venant du Burundi, du Zaïre et de Tanzanie.
Mais je ne sais pas encore, parce qu'ils sont venus, ils sont maintenant aux prises avec nos forces armées. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont en uniforme de l'armée ougandaise.
En réalité, si sur le coup on ne parle pas des génocides, il faut reconnaître que certains rapports, notamment américains et belges, en font discrètement mention. On évalue entre 100 000 et 200 000 les Hutus tués pendant ces massacres.
Loin de nous en Afrique, au moins 24 000 personnes auraient été tuées la semaine dernière lors de massacres entre deux ethnies au Burundi. Ce pays d'Afrique centrale est une ancienne colonie allemande, puis belge, indépendante depuis 1962. Deux ethnies occupent le pays, les Hutus qui sont majoritaires à 80% et les Tutsis. Ce sont ces derniers qui ont été victimes de ce massacre qui est révélé seulement aujourd'hui. Au téléphone, Bernard Estrade de l'AFP.
Les vieux démons semblent bien être de retour au Burundi, petit pays enclavé au cœur de l'Afrique. 16 ans après les massacres qui avaient fait entre 100 et 300 000 morts parmi la majorité Hutu, tenus à l'écart du pouvoir, une nouvelle vague de violence ethnique a éclaté. 24 000 personnes ont été massacrées le week-end dernier, a déclaré une source gouvernementale burundaise qui a précisé que les victimes étaient des membres de la minorité Tutsi au pouvoir. À Kigali, la capitale du Rwanda voisin, on indiquait que déjà 32 000 personnes, une majorité de femmes et d'enfants, certains grièvement blessés, avaient traversé la frontière fuyant la violence. Des riverains d'une rivière qui marque la frontière entre les deux pays ont déclaré compter jusqu'à 20 cadavres par jour flottant au fil de l'eau. Tout manque pour accueillir ces réfugiés, en majorité des Hutus, qui fuient la répression du pouvoir burundais. Bernard Estrade, AFP Audio pour Antenne 2.
Avec ces violences ciblées, plus de 200 000 Hutus vont s'exiler en Tanzanie, au Zaïre voisin et au Rwanda. Melchior Ndadaye, lui, va prendre le chemin du Rwanda, justement. Il va y poursuivre et achever ses études secondaires dans la ville de Butare. Puis il s'inscrit, en 1975, à la faculté des sciences de l'éducation de l'université du Rwanda. Sylvestre Tibatuganya, un de ses proches.
Le 29 avril 1979, il y a eu des rumeurs folles qui ont circulé ici, qu'il y allait y avoir un coup d'État, qu'il y allait même y avoir un risque de récidive de ce qui s'est passé en 1972. Alors on est parti au Rwanda, et à Butare, nous avons eu les premiers contacts avec les Burundais qui étudiaient là, soit à l'Université nationale du Rwanda, soit à l'Institut pédagogique de Butare. Et là, Ndadaye étudiait à l'Institut pédagogique. À partir de là, je ne sais pas si on peut parler de destin, comme quelqu'un l'a écrit, nous ne nous sommes plus quittés jusqu'à sa mort le 21 octobre 1993. Alors, à Butare, ce jour-là, ils nous ont appris ce qu'ils avaient commencé à faire dès 1975 avec le montage d'une petite organisation de jeunes réfugiés burundais, le mouvement des étudiants progressistes Barundi, réfugiés au Rwanda. Personnellement, j'ai été très vite intégré dans le circuit, jusqu'à même à ce qu'au mois d'août 1979, cette organisation de jeunes gens s'est transformée en parti politique. Le Parti des Travailleurs Burundais, ou UBU, en Kirundi, Mugambwe, w'abakozi b'u Burundi.
Melchior Ndadaye s'intéresse donc de plus en plus à la chose politique. Et son idéologie, même si elle ne peut ignorer l'aspect ethnique, en raison de son histoire et de celle de son pays, est plutôt communiste. Sylvain Setibantouganya, ancien président du Burundi et ami de Ndadaye.
Nous sommes des marxistes à l'époque. De jeunes marxistes comme d'ailleurs cela prévalait pratiquement sur tous les campus universitaires. Et nous, nous voulions voir non pas une élite des ethnies au Burundi, mais une élite des classes. Compte tenu du Rwanda, qui avait pris l'option avec la révolution, entre guillemets, de 1959, qui avait pris l'option de privilégier l'ethnie Hutu, mais également du fait que les réfugiés burundais qui étaient là avaient été victimes de ce qui sera appelé d'ailleurs le génocide de 1972, il était très difficile de faire comprendre une autre lecture qu'ethnique.
Alors que Melchior Ndadaye mène cette activité politique et termine ses études, il est professeur au groupe scolaire SAVE dans la préfecture de Butare. Il va même travailler pendant quelques mois au centre neuropsychiatrique de Kamenge comme psychologue. Mais il décide de retourner au pays, au Burundi. Sylvestre Tubantouganya, son ami.
Et nous avons décidé déjà en 1983 de rentrer ici, avec Ndadaye. Et alors nous rentrons avec cette idée de changer le cours des choses démocratiquement, cette fois-ci. Nous avions programmé que le processus révolutionnaire serait à un certain moment caractérisé aussi par une lutte armée. Et nous renonçons à la lutte armée. Et c'est là, en 1986, quand nous avons pris l'option de créer tout simplement le parti Sahwanya Frodebu.
En fait, Melchior Ndadaye, avant de participer à la création de ce nouveau parti, le Frodebu, a démissionné d'UBU, le parti des travailleurs du Burundi, en raison des divergences sur la stratégie à adopter pour renforcer le mouvement démocratique au Burundi. Il va donc être l'un des membres fondateurs du Frodebu, le Front pour la démocratie au Burundi. Il est, encore en cette année 1986, un parti clandestin. Mais l'activité politique n'occupe pas encore l'essentiel de son temps. Alors qu'il travaille dans l'éducation, Melchior Ndadaye, qui ne s'épanouit pas vraiment dans cette fonction, va entamer une formation par correspondance dans le domaine de la finance, ce qui lui permet de devenir le responsable de la promotion et de la formation aux coopératives d'épargne et de crédit. Il va se reconvertir dans le domaine bancaire en suivant pendant plusieurs années les cours par correspondance du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, le CNAM. Mais Melchior Ndadaye va passer par la case prison en 1988, lorsque le premier secrétaire de l'Union des travailleurs du Burundi, UTB, dans la province de Gitega, il intervient devant le gouverneur au cours d'une réunion pour évoquer de façon très engagée les troubles à Ntega et à Marangara. Il va en prison donc pour ses idées politiques. Mais il n'y restera pas longtemps. À sa sortie en 1989, il est nommé conseiller au cabinet du ministre du Développement Rural. Il va ensuite être engagé comme cadre à la banque Méridien Biao. Il est dans un premier temps le chef de service du crédit. Puis il va y prendre la direction du service de révision des crédits.
Il y a un faux mais vieux proverbe africain qui dit à peu près ceci: qui va à la conférence perd sa présidence. C'est le cas du colonel président Bagaza, chef de l'état du Burundi. C'est un pays situé au centre de l'Afrique, ancienne colonie belge. Il était à Québec, au sommet de la francophonie, quand un comité militaire de salut public l'a destitué.
Le Burundi est un pays qui connaît plusieurs tensions, entre l'église et l'état d'une part, et surtout entre les deux communautés, les Tutsis minoritaires qui sont au pouvoir et les Hutus majoritaires dont les chefs ont été massacrés. Jérôme Bonny.
Jean-Baptiste Bagaza a donc quitté précipitamment Québec. Il est actuellement retenu dans l'aéroport de Kigali, au Rwanda, son pays, le Burundi, lui ayant refusé l'autorisation d'atterrissage. Hier, il apprenait qu'un de ses proches, le major Pierre Buyoya, responsable de la logistique, venait de prendre sa place avec le soutien de l'armée à la suite d'un coup d'État apparemment sans effusion de sang. La capitale, Bujumbura, où s'était tenu le sommet franco-africain de décembre 85, est actuellement sous couvre-feu.
En ce mois de septembre 1987, le major Pierre Buyoya devient le nouvel homme fort du Burundi. Mais contrairement à son prédécesseur Jean-Baptiste Bagaza, il s'engage dans une politique d'ouverture, de réconciliation nationale et de démocratisation. Un processus qui va s'accélérer avec le vent de démocratie qui, en cette fin de la décennie 80, souffle sur le monde entier. Un vent venu de l'Est sur lequel surfe le président François Mitterrand lors du sommet de la Bolle qui réunit les chefs d'État d'Afrique et de France.
Parce que la démocratie est un principe universel, oubliez les différences de structure, de civilisation, de tradition, de mœurs. Impossible de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait de facto à l'ensemble de peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire et qui, s'ils veulent bien retenir le principe édicté, la démocratie est un principe universel, doivent savoir comment s'y diriger. Et il n'y a pas 36 chemins. À la démocratie, il faut un État. À la démocratie, il faut le développement. Et il faut l'apprentissage des libertés.
Ce discours qui lie désormais l'aide de la France au régime qui irait dans le sens de la démocratisation va fortement influencer le président Pierre Buyoya qui assiste à ce sommet à la Bolle. Il va accélérer le processus de réconciliation nationale dans son pays qui débouche sur la charte de l'unité nationale le 5 février 1991. Il approuve l'année d'après une nouvelle constitution rédigée par la commission qui prévoit la mise en place d'un gouvernement non ethnique avec un président de la République et un parlement. Melchior Ndadaye fait partie de cette commission chargée de rédiger cette nouvelle constitution. L'ancien président Sylvestre Tibatou Gagna était avec Melchior Ndadaye à cette période dans le Frodebou, qui va être reconnu dans la foulée.
Il y avait un soubassement de toutes les actions politiques dans ce pays, et cette réalité du problème ethnique qui jouait, et qu'il fallait résoudre politiquement. Mais résoudre la question ethnique, hier comme aujourd'hui, ne signifiait pas résoudre tous les problèmes des Burundais. Et nous étions conscients que plus de 95% des Burundais vivaient dans le monde rural. C'est ainsi que notre vision, au niveau autant politique, économique et social, avait pour prédilection de se concentrer sur le monde rural.
Avec cette nouvelle constitution et la reconnaissance, la légalisation du Frodebou, le Front démocratique burundais, les scrutins présidentiels et ensuite législatif qui se prépare s'annonce sous de meilleurs auspices pour ce parti qui réunit de fait dans ce pays où le facteur ethnique joue un grand rôle, l'immense majorité des Hutus. Melchior Ndadaye est le candidat qui doit affronter le major Pierre Buyoya.
Nous avons créé un parti dans lequel se reconnaissent tous les Burundais qui veulent changer. Il est évident que ceux qui ont profité de toutes les tragédies que nous avons connues dans ce pays accusent de tribalisme. En fait, c'est pour faire peur à la population et aussi pour recruter ethniquement chez eux. Les gens qui veulent le changement, il y en a dans toutes les ethnies. Et ce sont ces gens qui veulent le changement que nous avons recrutés essentiellement.
La campagne qui s'ouvre est particulièrement animée, mais les propos sont violents. La question ethnique prend rapidement le dessus. Pierre Bouyoya, le candidat du parti au pouvoir, l'UPRONA, l'Union pour le Progrès National, fait campagne en faveur de la réconciliation nationale, alors que Melchior Ndadaye parle de changement, avec un slogan qui porte
« Trois ans, nous étions étouffés et maintenant on respire. »
Melchior Ndadaye en campagne en 1992.
Le thème est fort, d'abord c'est le changement. C'est parce que nous voulons rompre avec son passé de tragédie et de dictature. La démocratisation nous semble être un remède à certains aspects de nos problèmes politiques.
Évidemment, le terme « changement » dans un pays s'est souvent secoué par les affrontements ethniques venant d'un leader de la majorité Hutu qui représente 85% de la population dans ce territoire jusque-là tenu par la minorité Tutsi, fait l'objet de nombreuses interprétations. Sylvestre Timbantouganya, proche de Melchior Ndadaye.
Les Hutus disaient « le changement maintenant veut dire que nous ayons droit à la parole, que nous ayons droit à participer en plénitude aux services publics ». Il pouvait y avoir d'autres données en rapport avec les questions sociales. Le changement veut dire quoi? Veut dire que également nous ayons plus de possibilités à travailler notre terre de manière qu'elle soit davantage rentable, etc. Je reconnais que le pouvoir de l'époque, le pouvoir de Major Bouyoya, quand même a fait une ouverture remarquable. Parce qu'à l'époque, chaque samedi, chaque dimanche, nous étions en train de parcourir le pays, on organisait des meetings. Je ne sais pas comment le décrire. À certains moments même, on n'en revenait pas. Moi, j'ai même titré dans « Robe de la démocratie » que c'était un phénomène nouveau qu'on observait. Parce que c'était des foules immenses qui venaient. C'était des foules immenses. Et même le discours de Ndadaye, la façon dont il parlait était une façon qui envoûtait les foules.
Melchior Ndadaye, le banquier, va-t-il faire le poids face au président Pierre Bouyoya qui a mis sur pied ce processus de réconciliation nationale qui permet ainsi à toutes les communautés de voter de façon égalitaire? Lui qui n'a aucune expérience de la gestion de la chose publique, pourra-t-il convaincre ses compatriotes fatigués des guerres ethniques de voter en sa faveur? Surtout qu'en face de lui, il a la machine militaire essentiellement dominée par les officiers Tutsi qui se méfient de lui.
L'unité nationale, un thème porteur, assurément dans un pays marqué par des explosions de haine ethnique. Le président sortant en a fait son credo politique et a ouvert les institutions gouvernementales aux Hutus écartés du pouvoir pendant près de 25 ans. Mais son principal rival, Melchior Ndadaye, estime que ce mot d'ordre d'unité nationale n'a jamais dépassé le niveau du slogan. Lui souhaite instaurer une politique d'équité et de réel partage du pouvoir. Enfin, le candidat monarchiste affirme que pour mettre tout le monde d'accord, il faut rétablir une autorité au-dessus des ethnies et que c'est à la royauté de jouer ce rôle-là comme elle l'a fait dans le passé. Chacun confronte ses arguments. Pour les opposants du Frodebout, le président sortant traîne le boulet de l'UPRONA, le parti au pouvoir, associé dans l'esprit de beaucoup aux massacres qui ont ensanglanté le pays depuis l'indépendance. Monsieur Bouyoya réplique en accusant le Frodebout de ne pas rassembler dans ses rangs assez de Tutsi et de se laisser aller à la tentation ethnique, c'est-à-dire de miser sur le vote des Hutus, 85% des Burundais. Reste maintenant à savoir si l'unité nationale sortira renforcée de ce premier test démocratique.
Jean-Hélène Bujumbura, RFI.
Suite et fin de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Melchior Ndadaye dans une dizaine de minutes, juste après le journal. Le tout n'est pas de gagner les élections, il faut pouvoir survivre à sa victoire.
Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Le thème est fort, d'abord c'est le changement. C'est parce que nous voulons rompre avec son passé de tragédie et de dictature. La démocratisation semble être un remède à certains aspects de nos problèmes politiques.
En Durant ce mois de mai 1993, le Burundi vit au rythme de la campagne présidentielle qui oppose le président sortant Pierre Buyoya, artisan de l'ouverture démocratique que vit le pays et qui a permis l'organisation de ce premier scrutin multipartite, au banquier Melchior Ndadaye, le leader du FRODEBU, le Front démocratique burundais, parti largement soutenu par la majorité Bahutu, qui fait campagne sur le thème du changement. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Melchior Ndadaye.
Le ministre de l'Intérieur apparaît à l'écran pour annoncer les résultats. Melchior Ndadaye, candidat du FRODEBU, environ 60% des voix contre 39% au président sortant Pierre Buyoya et 1% au candidat monarchiste Pierre Claver Sendegaya. Puis le candidat élu prononce une courte allocution dans laquelle il affirme que sa victoire est celle de tout le peuple burundais. La promotion des droits de l'homme cimentera l'unité des fils et des filles de notre nation, dit encore M. Ndadaye. Il est suivi à l'écran par le chef des forces armées, le colonel Michel Mibarurwa, qui déclare que l'armée soutient la démocratie et appelle à une bonne collaboration entre le nouveau pouvoir et les forces armées. Quelques instants plus tard, le président Buyoya arrive au studio pour délivrer un message à la nation. Il déclare accepter le verdict populaire et demande à la population de faire de même.
Les Burundais ont fait leur choix, sans grande surprise. Melchior Ndadaye remporte le scrutin. Bon prince, le président sortant Pierre Buyoya accepte le verdict des urnes.
Cette victoire a été qualifiée de plusieurs manières. Vous savez, il y en a qui ont parlé de recensement ethnique. Je n'ai jamais utilisé ce terme. Cette victoire est le résultat, je pourrais dire, des attentes d'une certaine population burundaise, en particulier la population Hutu, qui était mobilisée, comme vient de le dire le président Ntibantunganya, pour eux. Le changement voulait dire pas seulement le changement politique, mais le changement ethnique aussi.
Sylvestre Ntibantunganya, proche de Melchior Ndadaye au sein du FRODEBU, le Front démocratique burundais.
Bon, le facteur ethnique a joué, certainement. Il ne pouvait pas en être autrement dans un pays qui venait de passer des décennies, traversé justement par l'influence de ces données ethniques dans l'organisation et la gestion du pays, et jusqu'à même à aboutir à des situations dramatiques comme celle de 1972 ou celle plus récente, je viens de vous le dire, de 1988.
Le nouveau chef de l'État doit absolument rassurer les populations tutsies qui redoutent une politique revancharde.
Il faut absolument restituer la vérité et rassurer les gens et leur faire comprendre que cette victoire, c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire du peuple burundais, ce n'est pas la victoire d'une partie de la population contre une autre. À ce que j'ai entendu, nous avons 60% des voix, et c'était l'ethnisme qui avait vraiment fonctionné à 100%, je pense que nous aurions eu plus que ça, du moins si on se réfère aux proportions ethniques dans ce pays. Donc je crois que les gens ont voté pour le changement, ils ont voté pour les 46 propositions que nous leur avons avancées, et les gens qui veulent le changement, à mon avis, il y en a dans toutes les ethnies, si bien chez les Bahutu que chez les Batutsi, et je suis bien convaincu que nous avons eu les voix de tout le monde.
Jour tranquille à Bujumbura, le calme règne au Burundi après la victoire du candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Melchior Ndadaye. La France d'ailleurs se félicite de la maturité politique dont a fait preuve la population de ce pays, et la Belgique a également fait connaître sa satisfaction. Le Burundi qui entre pour quelques semaines maintenant dans une période de transition peut-être délicate. Sur place, Jean-Hélène.
Les imprévus du calendrier de la transition font que pendant un mois, le Burundi va vivre avec deux chefs d'État, l'un en fonction et l'autre nouvellement élu, jusqu'aux élections législatives du 29 juin, qui déboucheront sur la formation d'une Assemblée nationale, la dernière ayant été dissoute par le président Buyoya en septembre 87. Selon les observateurs, la dynamique présidentielle devrait jouer et offrir à l'opposition une large majorité parlementaire qui profitera d'abord au FRODEBU, le mieux implanté des mouvements politiques. Selon la loi électorale, les partis qui ne sont pas autorisés à former des alliances avant le scrutin législatif devront chacun présenter des listes à élire à la proportionnelle. Deux semaines après cette élection, Melchior Ndadaye prêtera serment devant les députés et prendra alors officiellement ses fonctions de président. Quant au prochain gouvernement, M. Ndadaye a laissé entendre que si son parti est chargé de le former, celui-ci sera le plus large possible et nécessairement dirigé par un Premier ministre d'origine tutsi.
Cela tient du réalisme politique, explique un responsable du Frodebou.
Melchior Ndadaye, qui a à cœur de rassurer les populations, va dans un premier temps prononcer une large amnistie.
Nous voulons absolument que ce processus de démocratisation continue à s'implanter dans notre pays, et tout en ramenant la confiance entre les différentes catégories de la société burundaise. Nous sommes conscients que la société burundaise est fragile, étant donné l'histoire que ce pays a connue, et c'est pourquoi nous voulons mettre de notre côté tous les atouts nécessaires pour que le nouveau régime puisse continuer les différentes réformes dans la tranquillité, dans la sérénité.
Melchior Ndadaye, qui vient de remporter aussi largement les élections, veut rassurer. Son gouvernement, il veut l'ouvrir, le plus large possible. Sylvestre Tibatou gagne.
Quand nous parvenons au pouvoir en 1993, nous allons également faire l'apprentissage du pouvoir. Parmi nous, qui est-ce qui avait connu des responsabilités dans la gestion de l'État? Donc nous sommes là pour découvrir l'État que nous avons le devoir de gérer. Alors, nous sommes pragmatiques. Quand il s'agit de choisir un premier ministre, Ndadaye ne le choisit pas parmi nous. Il a déjà annoncé dès le départ que son premier ministre sera d'une ethnie différente de la sienne. Et quand il arrive le moment de choisir, non seulement il tient compte de l'ethnie différente, mais aussi au niveau du genre, il cherche une femme. Une femme qui avait travaillé à la Banque de la République et qui à l'époque dirigeait un projet, le programme d'ajustement structurel, donc qui connaissait très bien les méandres de la gestion économique.
Il va donc nommer un premier ministre d'ethnie Tutsi, une femme, Sylvie Kinigi.
J'ai été nommée pour servir le pays, parce que je suis burundais avant d'être époniste, et j'ai le devoir de servir mon pays.
Le gouvernement que nous avons mis sur pied n'est pas un gouvernement de coalition. C'est un gouvernement de large ouverture. Parce que si ça avait été un gouvernement de coalition, nous aurions dû effectivement négocier avec l'IPRONA. Or, nous n'avons pas besoin de négocier avec l'IPRONA pour former le gouvernement.
Sylvestre Tibatou Gagna, ancien président et proche de Melchior Ndadaye, avait le portefeuille de ministre des Affaires étrangères.
Contrairement à ce que les gens redoutaient, Ndadaye construit un gouvernement dans lequel même des membres issus de l'IPRONA sont invités. Je vous ai dit, le premier ministre est de l'IPRONA. Et il y avait deux ou trois ministres qui venaient également de l'IPRONA. Il y avait d'autres ministres qui venaient d'autres partis, bien sûr, ceux qui avaient soutenu la candidature du président américain Ndadaye. À tel point que je dis aux gens aujourd'hui, mais vous croyez avoir inventé les proportions de 60-40% vous à Arusha? Non, vous n'avez rien inventé. Ndadaye l'a fait.
Ndadaye l'a fait. Mais cela n'a pas pour autant rassuré certains extrémistes de l'armée. Ce bouleversement des rapports politiques ethniques au Burundi, qui s'est déroulé dans le calme, n'est pas vraiment du goût de tout le monde. Ndadaye a tort de se réjouir si tôt. Le 3 juillet 1993, des hommes du 3e bataillon commando vont tenter, juste un peu avant la prestation de serment de Ndadaye, de le renverser. La tentative de coup d'État a échoué et plusieurs officiers ont été arrêtés, dont le lieutenant-colonel Sylvestre Nigaba, qui avait été le chef de cabinet du président Pierre Buyoya, et le major Bernard Buzokoza. Les regards se tournent un moment vers le président Pierre Buyoya, mais il n'est pas l'auteur de cette tentative. Melchior Ndadaye.
Ils sont presque tous arrêtés, sauf un capitaine qui est en cabale. Ça ne nous a pas beaucoup surpris parce que ce groupe, on le connaissait plus ou moins. On l'avait vu s'exprimer et s'agiter du côté des mécontents qui n'ont pas accueilli favorablement notre élection. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire devront répondre devant les juridictions habilitées à trancher ce genre de cas.
Mais ces arrestations opérées au sein de l'armée ne vont pas pour autant mettre un terme au projet de quelques officiers. L'optimisme de Ndadaye, qui veut créer un Burundi nouveau, il ne le partage pas. Jeudi 21 octobre 1993, 2h du matin. Un échange de coups de canon s'engage autour de l'enceinte du palais. Pendant un quart d'heure, les véhicules blindés du 11e bataillon et la garde du palais s'affrontent. Le président, qui a été prévenu par sa garde, se trouve dans l'un des véhicules blindés. Il a laissé sa famille au palais. Mais plus tard, dans la confusion, sa famille et lui vont être transportés du palais vers un autre camp. Cette nuit du jeudi 21 octobre 1993, c'est le chaos à Bujumbura. On ne sait pas encore ce qui est arrivé au chef de l'État.
RFI Soir.
Des communications coupées, Bujumbura ville morte, le président burundais Melchior Ndadaye et plusieurs de ses collaborateurs retenus par les putschistes dans une caserne de la capitale. C'est ce que l'on peut retenir de la situation au Burundi après le putsch militaire de cette nuit qui a renversé le président Ndadaye, élu il y a 4 mois seulement. Jean-Hélène.
Le Burundi reste isolé, mais le porte-parole du gouvernement, M. Jean-Marie Gendayo, a réussi à communiquer brièvement avec l'extérieur ce matin. Et d'après son témoignage, on observerait dans certains quartiers de la capitale et dans quelques localités du pays des manifestations populaires en faveur du président renversé, manifestations réprimées par les putschistes. D'après les mêmes sources, la famille du président a été autorisée à se réfugier à l'ambassade de France et M. Ndadaye serait détenu par les putschistes dans un camp militaire à proximité de la capitale. Mais, selon certaines rumeurs, il aurait été exécuté.
Les putschistes, après avoir longuement torturé le président Melchior Ndadaye, l'ont froidement assassiné. Plusieurs personnalités du régime, tels Pontien Karibwami, le président de l'Assemblée nationale, Gilles Bima Zoubouté, le vice-président de la même Assemblée, Juvenal Ndayikeza, le ministre de l'Administration du Territoire et du Développement Communal, ont également été exécutés. Pour ne citer que ces quelques noms, c'est le chaos à Bujumbura. Ce putsch va déclencher des violences interethniques dans tout le pays.
Dans les collines, la guerre civile a commencé, affirme un diplomate qui ajoute « Les villageois Hutus se vengent sans merci sur leurs voisins Tutsis, surtout depuis qu'ils savent que Melchior Ndadaye, premier président Hutu de l'histoire du pays, a été exécuté. Un médecin du Comité international de la Croix-Rouge a survolé le nord du pays dimanche après-midi et raconte « Dans la région de Karoudzi, c'est toute la campagne qui brûle. Nous avons volé pendant 15 minutes à travers la fumée. » Dans le village de Kibimba, j'ai vu une école incendiée et dans une des salles de classe dont la porte avait été cadenassée, j'ai compté 25 corps de collégiens tutsis brûlés vifs. Visiblement, les putschistes qui jouaient sur le réflexe de la peur ne s'attendaient pas à voir les Hutus résister.
Plusieurs semaines après son assassinat, des dizaines de milliers de morts et des centaines de personnes déplacées, on peut enfin organiser les funérailles du président Melchior Ndadaye.
Une messe solennelle y sera concélébrée par l'archevêque de Gitega et tous les évêques du Burundi. Puis les dépouilles mortelles seront amenées en procession jusqu'à l'ancien palais royal, le palais du 1er novembre, dont le président assassiné avait fait sa résidence. C'est là, dans l'enceinte du palais où sont encore visibles les impacts de balles, que 8 tombes ont été préparées, 8 tombes plus une, celle du martyr inconnu, qui sera en fait un monument à la mémoire des milliers de morts dans les massacres consécutifs au putsch. On ignore encore le bilan de la folie meurtrière qui a opposé encore une fois Tutsi et Hutu dès l'annonce de l'assassinat du président, mais il se chiffre vraisemblablement par centaines de milliers. Très inquiet d'une recrudescence de violence au cours de ces 2 journées de deuil, le gouvernement a multiplié les appels au calme ces derniers temps. Ils ont, semble-t-il, été entendus, tout du moins dans la capitale. Il faut dire que gendarmerie armée quadrille le centre-ville où se déroulent les cérémonies. L'espoir est là que le dernier adieu des Burundais à leur président soit au moins le début d'un véritable apaisement. Dominique de
Alors que les violences se poursuivent au Burundi, il est demandé au Premier ministre qui a trouvé refuge à l'ambassade de France de former un gouvernement avec les autres ministres qui s'y sont aussi installés. Ils ont pour tâche de restaurer l'ordre après les batailles ethniques. Bien que les ministres encore à l'ambassade se montrent méfiants sur les véritables intentions de l'armée, le 26 octobre, Sylvie Kinigi s'adresse aux habitants du pays via la radio de l'État pour leur demander de la part des responsables de l'armée et du coup d'État de retourner chez eux dans leur maison. Kinigi promet aussi que les responsables du putsch seront sévèrement punis. Elle rejette l'amnistie générale pour les leaders du coup d'État en demandant qu'il y ait un jugement. Madame le Premier ministre fait aussi le vœu de mettre en place une commission spéciale pour préparer une nouvelle élection présidentielle. Melchior Ndadaye n'aura donc pas eu le temps de mettre en œuvre son projet d'un Burundi débarrassé de ses démons, de ses affrontements ethniques. Il a été assassiné seulement 100 jours après son élection à la tête du pays. Le major Pierre Bouyoya.
C'est certainement un échec. Et les événements qui ont suivi l'ont bien montré. Parce que je crois qu'on a fait des bons en arrière sur la question de la démocratisation. Alors, pourquoi d'abord cet événement ? Pour moi, je crois qu'il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est que ce changement démocratique a provoqué des peurs dans une certaine catégorie de la population burundaise. Je pense que ce qui est arrivé, c'est l'expression de cette peur, une peur non fondée sur la raison, mais certainement sur les émotions accumulées à travers les années de crise, d'événements multiples qui se sont passés et au Burundi et dans la région. Je crois que dans certains milieux tutsi, l'avènement d'un président Hutu d'une façon aussi brutale n'a pas été accepté à soulever ses pères là-bas.
Sylvestre Tibantuganya, ancien président du Burundi, ministre des Affaires étrangères dans l'éphémère gouvernement de Melchior Ndadaye.
L'assassinat du président Ndadaye, compte tenu de ce qui a suivi après, pendant plus d'une dizaine d'années, évidemment, était un échec. Quand une action s'accompagne d'autant de centaines et de milliers de morts, évidemment, on ne peut pas dire que c'est un reflet de succès. Mais c'était également une sorte d'alerte grave. Très laconiquement, on parlait du problème de l'armée, on parlait du problème de la justice, on parlait du problème des réfugiés et on parlait bien sûr de la démocratisation en elle-même. Et nous revendiquions un gouvernement de transition que nous projetions sur 3 ans. Et au niveau du FRODEBU, on pensait franchement que les premières élections ne pourraient pas intervenir avant 1996. Mais certainement, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont intervenus, qui ont fait que ces élections aient lieu avant. Et moi, je veux témoigner quelque chose. À un certain moment, nous nous interrogeons. Est-ce que demain, si nous gagnons, et nous allons gagner? On était sûr qu'on allait gagner, compte tenu de toutes les dimensions ethniques, compte tenu d'autres facteurs. On était sûr. Mais on se posait la question, est-ce que nous allons pouvoir gouverner ce pays dans les conditions dans lesquelles il se trouve? Et à un certain moment, on se disait avec Ndadaye, nous serons tués.
C'est malheureusement ce qui est arrivé. C'est sur ces réflexions et analyses que se termine notre série d'Archives d'Afrique consacrée à Melchior Ndadaye. Merci de rester fidèle à notre magazine Archives d'Afrique qui lui continue naturellement tous les samedis. N'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Attention, chers amis, on décolle. Serrez vos ceintures, s'il vous plaît. Oh, ça vient.